ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。
はい、どうしておりますこれからのご乗車はおやめください。
C'est l'heure de pointe dans le métro de Tokyo. Et coronavirus oblige. 80% des gens ont un masque.
Grillés, brûlés par le soleil et la sécheresse.
We're fucked. Journal de bord d'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Hey, Abe wa yamero.
Épisode 15.
Usotsuki wa yamero.
Japon. Tokyo dans les marges. Des Japonais contre le nucléaire.
D'un monde à l'autre.
Vivant-il sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc de retour à Tokyo pour une nouvelle étape dans notre tour du monde d'avant. La semaine dernière, le Japon commémorait un événement fondateur de son histoire contemporaine, le 75e anniversaire des bombardements états-uniens sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 45. Mais si cette page de la mémoire nippone n'est plus refoulée, si les derniers survivants, longtemps traités en paria, sont volontiers écoutés aujourd'hui, cette blessure a été ravivée en 2011 par la catastrophe nucléaire de Fukushima. À nouveau, le pays était confronté à cette menace invisible, avec son cortège de confinement, de contamination et de zones interdites. À nouveau, une partie de la population était déracinée de sa terre pour être reléguée dans les marges et les préjugés. Mais dans les marges, justement, des voix s'élèvent. Alors pas des militants chevronnés avec des phrases chocs, mais des familles ordinaires qui, confrontées à la grande histoire et ses embûches, refusent juste de subir. Alors après avoir été à Fukushima le mois dernier, je vous propose d'aller aujourd'hui à la rencontre de Japonais un peu donquichotesques qui forcent le respect, de simples citoyens sortis de leur gond, sortis de leur vie et qui n'hésitent pas à interpeller leur société, mégaphone à la main, quitte à manifester tout seul. Alors jusqu'à 18h sur France Inter, balade à Tokyo dans les marges avec des Japonais vent debout contre le nucléaire.
There's a lot of things to eat in Japan. And I'm trying, I'm winning you this that I can. But for good fashion eating, here the dishes can be written. And you try it from Kukum, where the old soba man. Wait,
Je reviens du monde d'avant. Sur France Inter.
C'est un petit coin de rue devant l'université Tsuda de Tokyo, juste derrière le flambant neuf stade olympique. Et là, je vois une, deux, trois, quatre petites dames aux cheveux poivre et sel, si ce n'est complètement blanc. Et il y en a une qui est en train de parler dans le micro, en train d'essayer d'attirer l'attention des rares piétons qui passent souvent le nez sur leur smartphone, et deux ou trois autres qui tendent sans beaucoup de succès des prospectus et des pétitions. Et le sens de cette mini-manifestation, c'est le Hibakusha Appeal. Hibakusha, c'est un mot qui est rentré dans l'histoire du Japon après le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Les Hibakusha, c'est les rescapés, et qui se sont mobilisés aussi après Fukushima pour les nouveaux Hibakusha, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont fui la zone de la troisième catastrophe nucléaire que connut le Japon. Bonjour madame.
Nous faisons partie d'un groupe de femmes qui a été mis en place juste après la guerre, il y a 74 ans. Nous militons contre les armes nucléaires, le Japon étant le pays qui a souffert du bombardement nucléaire, et nous nous retrouvons ici tous les mois. C'est pourquoi les Hibakusha ont milité, c'est pour s'assurer qu'une telle chose n'arrive jamais à qui que ce soit d'autre dans le monde.
Vous voulez sortir du nucléaire civil et militaire à la fois?
Oui, notre action englobe effectivement le combat contre les armes nucléaires, mais aussi la sortie du nucléaire, et parler de Fukushima fait partie de nos activités. Et même ici, ça nous arrive souvent de chanter.
Qu'est-ce que vous chantez ?
Le thème de la chanson, c'est d'expliquer l'importance que chaque personne transmette notre message à une autre personne, et donc le but étant d'avoir des signatures sur notre pétition.
Vous pourriez me la fredonner pour les auditeurs français ?
On va chanter à trois, si
ça. Ah bah oui, oui, bien sûr. Alors les dames, qui sont toutes des petites dames d'un certain âge, qui se mettent près du micro et qui vont nous chanter pour nous la chanson qui s'appelle...
Donc le thème de la chanson, c'est « D'une personne à une autre ».
Sur leur message contre le nucléaire.
Hiroshima no kokoro mune ni kizande hitori kara hitori e shomei wo hiroge yo Hibakusha no negai machi tsuzuketa hibi ashita no negao e kanaeru toki kono chijou kara kakuhei ki subete nakusou ima.
Domo arigatou gozaimasu.
Hana. Iroiro kiite
itadaite Radio Furutsu.
It is the most devastating nuclear disaster since Chernobyl.
Fukushima, à seulement 220 km de Tokyo.
Le gouvernement vient de décréter que la zone était redevenue habitable.
La catastrophe de Fukushima n'est pas du tout terminée.
Tens of thousands of people were forced to leave their homes.
Le gouvernement fait tout pour inciter les habitants au retour.
The Japanese government failed to decontaminate Fukushima.
La décontamination n'est pas terminée.
Les 80 000 anciens habitants du No Man's Land sont réticents à repeupler la région.
C'est un drôle d'endroit où on est. Ça ressemble à un centre social, à un bureau de la CAF. Y a des fonctionnaires derrière des bureaux avec leurs ordinateurs. Des tonnes et des tonnes de paperasses sur les étagères. Une boutique solidaire. C'est quoi cet endroit où on est ?
C'est un centre de bénévoles.
Les gens vont et viennent, il y en a qui viennent pour se faire aider, il y a des
volontaires qui ont tous ces petites vestes et il y a écrit dans leur dos « Make the future better », rendre le futur meilleur. C'est un peu le dilemme dans lequel une partie de la société japonaise est tiraillée aujourd'hui. Regarder le futur et en même temps savoir que, qu'on le veuille ou non, ce passif radioactif continuera de hanter cette partie du Japon pendant des centaines, des milliers, et voire même pour certains éléments radioactifs, des millions d'années. Et c'est là où on s'est retrouvé avec la famille Kamoshita.
Je m'appelle Miwa Kamoshita.
Kamoshita Yuya desu.
Je m'appelle Yuya Kamoshita.
Kamoshita Matsuki.
Et moi, c'est Matsuki Kamoshita.
Toi, tu as 16 ans, c'est ça ?
17
ans.
On est face à une famille qui est sortie de l'ombre pour faire entendre la voix des exilés de la région de Fukushima. Vous ne pouvez plus ou ne voulez plus retourner chez vous. C'est le fils qui prend la parole.
Tout a commencé avec le tremblement de terre du 11 mars 2011. Et à partir du 12, il y avait la question du danger posé par la centrale nucléaire. Et mes parents ont décidé d'évacuer. J'avais 8 ans à l'époque. D'abord, il y a évidemment le séisme lui-même. C'était des ondes sismiques très longues et une impression comme si on était sur un navire et que ça tanguait.
Parce que c'était un tremblement de terre de magnitude 9.
L'eau, le gaz et l'électricité étaient coupés et nous habitions dans une maison où tout était électrique et tout d'un coup, donc, on ne pouvait plus rien utiliser. Il y a un voisin qui est venu nous prévenir qu'il y avait des grandes vagues de 6 mètres qui allaient s'abattre sur la côte et qui nous a dit en criant « Éloignez-vous de la côte » et il est parti en courant. Le premier d'entre nous qui a pensé à la centrale nucléaire, c'est mon mari, qui connaît mieux le sujet. Et il a tout de suite pensé, avec le tremblement de terre et le tsunami, ça posait un risque pour la centrale.
Vous, Yuya, vous faisiez quoi comme métier à l'époque ?
À l'époque, j'enseignais dans un collège de Fukushima. Le soir du 11 mars, vers 22h, on a entendu à travers les nouvelles que les personnes vivant dans un périmètre de 3 km des centrales de Fukushima Daiichi et Daini, on leur conseillait de porter un masque. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que le système de refroidissement ne fonctionnait peut-être pas comme il devait.
Parce que les informations ont mis longtemps à arriver. Et chaque jour, après la catastrophe, le périmètre conseillé, puis le périmètre obligatoire, puis le périmètre indispensable d'exclusion et d'évacuation s'élargissait.
C'était que j'ai entendu qu'on demandait l'évacuation du périmètre de 3 km autour de la centrale que je me suis dit que nous devions partir.
Vous, Miwa-san, pour vous, c'était pas un départ sans retour.
3 jours après le séisme, on pensait qu'on allait revenir, évidemment, et c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants et à mon père.
Et vous êtes parti, alors c'est samedi, le 12 mars 2011, et depuis, est-ce que vous êtes retourné chez vous, dans votre maison ?
Beaucoup plus tard, on est retourné pour chercher des affaires, mais on n'y a jamais habité depuis. L'intérieur de la maison était aussi contaminé par les radiations, donc c'était pas possible d'avoir une vie normale. Je pensais qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux informations du gouvernement. Parce que si on regarde ce qui s'est passé après d'autres accidents nucléaires similaires, on sait que les gouvernements ne donnent pas toutes les informations. Le gouvernement français lui-même n'a-t-il pas occulté des informations après la catastrophe de Tchernobyl ?
Vous voulez parler de ce nuage radioactif qui n'a pas traversé la frontière française ?
Oui, c'est très similaire à ce qui s'est passé ici au Japon.
Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud.
En France, l'anticyclone des Açores restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection.
Mars 2011.
Fukushima-ken-yoru.
Nous confirmons l'explosion à Fukushima du bâtiment numéro 1 et une légère fuite radioactive, mais l'enceinte du réacteur n'a pas été touchée.
Dans la nuit, plus de 100 000 personnes vont être évacuées.
Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
C'est donc depuis ce jour que vous êtes une famille de réfugiés. réfugiés de l'intérieur, réfugiés nucléaires.
Au début, le gouvernement nous a donné la possibilité d'habiter dans des habitations pour évacuer, mais on a été ballottés en fait, de lieu en lieu, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où nous habitons encore maintenant, mais dont on nous a demandé de partir parce que l'accident est terminé. Grâce à ce type de politique, eh bien, ça fait que quand il n'y a plus d'évacués dans ces logements pour évacuer, donc dont on les a expulsés, eh bien, ça permet au gouvernement de faire descendre les statistiques et de pouvoir affirmer qu'il y a moins d'évacués qu'avant.
160 000 personnes ont été déplacées.
120 000 déplacés vont revenir vivre dans leur maison.
80 000 anciens habitants du No Man's Land.
Aujourd'hui, seuls 10% de la population est revenue.
Et le gouvernement souhaite que les habitants aient regagné leur maison d'ici 2020.
Et c'est comme ça que les autorités sont très fières d'annoncer que les torches des porteurs de flammes olympiques sont faites avec l'aluminium recyclé des baraques provisoires où les réfugiés de Fukushima ont été hébergés.
Les 10 000 torches qui seront utilisées pour porter la flamme seront fabriquées à partir de pièces d'aluminium recyclées provenant des logements temporaires de la préfecture de Fukushima. Mais c'est une façon de soutenir une région en totale reconstruction et notamment tous les habitants qui ont perdu leur logement lors de cet accident nucléaire, le pire depuis Tchernobyl. C'est une belle initiative, allez.
C'est la première fois que je l'entends, je n'étais pas au courant. C'est vrai ?
Oui, oui, c'est tout à fait vrai, c'est dans les communiqués officiels. Ça rentre dans le cadre de l'impact écologique des Jeux Olympiques. On recycle une partie de votre histoire pour regarder de l'avant. Je vous vois lever les yeux au ciel, Miwa-san.
Oui, vous voulez dire les maisons dont on a été évacués de force ?
Pour nous, c'est impossible de voir les Jeux Olympiques comme quelque chose de positif, parce que ce relais de la torche olympique, il va avoir lieu dans des zones qui étaient fermées à cause de l'accident nucléaire et qu'on a réouvertes et vers lesquelles on essaye de pousser les gens à revenir. Ces Jeux Olympiques, c'est comme une espèce de grand festival qu'on utilise pour détourner l'attention, pour faire oublier les questions de la contamination nucléaire et pour donner l'impression que voilà, maintenant tout va bien, il n'y a pas de problème de sécurité, on peut y retourner.
Matsuki, toi tu as 17 ans, il y a 9 ans de ça, tu avais 8 ans. Comment tu as été reçu, toi, dans les écoles où tu t'es retrouvé, dans la nouvelle vie que vous avez été contraint d'adopter ?
Nous faisons partie de ces évacués en dehors des zones d'évacuation, donc des évacués qui ne sont pas officiellement reconnus comme tels par le gouvernement. Et c'est pour ça que certaines personnes nous accusent d'être des profiteurs d'évacuer pour recevoir de l'argent. Ça, c'est très très dur aussi. Et c'est à peu près un mois plus tard que j'ai commencé à subir des brimades.
Des brimades, tu dis ?
On a pris mes affaires, on les a balancées dans les toilettes. On a retourné mon plateau repas. On a essayé de me faire boire un liquide mélangé avec des déchets. Tout ça remonte à 5 ans en arrière et je ne suis plus l'objet de brimades maintenant. Mais ça ne veut pas dire que tout ça, ça s'est terminé. Les gens continuent de nous voir sous un jour négatif et on n'est pas sorti d'affaire pour autant. Pour mon fils, parler de ce genre de choses-là, il est encore très sensible. Il a un stress post-traumatique. Et c'est pour ça qu'il doit prendre des médicaments, là, comme vous les voyez.
C'est la petite boîte de cachet là, que vous venez de lui passer.
Des médicaments pour l'estomac. Enfin, ça m'inquiète un petit peu. Il faut faire attention de ne pas le pousser un peu trop loin dans la description de ces événements.
On l'entend bien, cette histoire du monde d'avant est encore à vif. Et malheureusement, l'histoire de la famille Kamoshita est une histoire ordinaire, comme ils s'en comptent des milliers, déracinés dans le sillage de la catastrophe de Fukushima. C'est à peu de choses près la même histoire que racontent encore les grands-mères rescapées de Hiroshima, faites de préjugés et de regards en biais. À quoi s'ajoute, pour les Kamoshita, l'injustice de ne pas être comptabilisés dans les 160 000 réfugiés officiels, puisqu'ils habitaient juste en dehors de la zone de 30 km évacuée autour de la centrale. Relégués dans cette zone grise, c'est leur statut de victime qui leur était nié. Et ils sont nombreux dans ce cas à qui l'on ne propose rien, sinon de rentrer dans leur maison contaminée. Mais là où l'abattement aurait pu finir de les emporter, Miwa, Yuya et leur fils Matsuki ont trouvé la force de se battre pour eux et pour les autres, jusqu'à déplacer des montagnes et même, tenez-vous bien, jusqu'à déplacer le pape de l'église romaine catholique lui-même.
Vatican News, Radio Vaticana.
Prenez le désarmement nucléaire, c'est l'objectif principal du pape François.
J'aimerais rencontrer ceux qui portent toujours les cicatrices de ce tragique épisode de l'histoire de l'humanité, ainsi que les victimes du triple désastre de Fukushima.
Ha sido uno de los momentos más emotivos.
De l'incontro di Papa Francesco con le vittime del triplice disastro che ha cambiato la storia del Giappone.
El abrazo del Papa Francisco con este joven
Matsuki Kamoshita.
親愛なるパパ様、僕は福島県岩城市に生まれました。
Ecco un abbraccio tra i due. Il ragazzo è profondamente commosso.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
Matsuki, comment tu t'es retrouvé, toi, jeune homme de 17 ans, à l'époque tu avais 16 ans, à rencontrer le pape en novembre dernier, le pape François.
Oui, mais c'est pas faute d'avoir cherché à avoir du soutien à l'intérieur du Japon. J'ai passé beaucoup de temps à parler de mon expérience, à demander de l'aide. Et malgré ça, rien ne changeait. Les politiques du gouvernement n'ont pas changé. On s'occupait pas de nous, on nous ignorait. On est même allé à Genève, aux Nations Unies, pour parler de notre cause. Et c'est comme ça que j'ai fini par écrire au pape. J'ai raconté au pape mon expérience, à savoir que je venais d'entrer au collège et que je passais mon temps à me cacher. Je me cachais des autres. Je cachais mon nom et c'était quelque chose dont je souffrais. Et aussi l'absence de politique du gouvernement par rapport aux réfugiés, et donc cette situation où on ne nous apportait pas l'aide dont nous avions besoin. C'est cette souffrance que j'ai voulu communiquer au pape.
Ça,
c'est la lettre. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment longue.
Et voilà la lettre.
Je m'appelle Matsuki Kamoshita. Je suis réfugié à Tokyo à cause de l'accident nucléaire de Fukushima. Je ne peux plus vivre en cachant mon identité. Quand le pape est venu au Japon et qu'il a embrassé notre fils, c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup de courage.
Ce qui est rigolo, c'est que sur l'ordinateur de Miwa-san, la mère de Matsuki, il y a un autocollant, pas en japonais, c'est un autocollant en français qui est fait par l'ONG Sortir du nucléaire et qui dit « Le nucléaire ne sauvera pas le climat ». Et on voit un ours polaire qui est en équilibre sur un bidon de déchets nucléaires. Et ça, c'est le résultat de votre tournée européenne que vous avez fait il y a quelques mois de ça, avec ces photos que vous montrez, toute la famille en costard-cravate au Vatican, en train d'être présentée au pape François. Voilà comment cette petite famille, Kamoshita, s'est retrouvée comme des prêcheurs, des pèlerins de l'antinucléaire à cause de cette histoire, à cause des répercussions de la catastrophe de Fukushima sur leur vie, de Japonais à qui on a, pour ainsi dire, refusé le statut de victime.
30 km de
ce qui se passe maintenant, c'est que des personnes qui étaient en dehors de ce périmètre officiel de 30 km ont attaqué en justice le gouvernement et TEPCO pour faire valoir l'idée que eux aussi sont des victimes de l'accident. Et tout ça se passe maintenant devant les tribunaux.
Ça, c'est un combat que vous portez, vous, aujourd'hui, Yuya-san, avec d'autres réfugiés, pour que l'histoire ne soit pas passée sous le tapis.
Ce qui est important, c'est de faire reconnaître que les dégâts ont aussi touché les zones en dehors de ce périmètre de 30 km. Et le sens de notre lutte, c'est de faire en sorte que si un autre accident venait à se produire, cette même minimisation des conséquences ne se reproduise pas. Ce que j'ai compris avec l'explosion de la centrale nucléaire, c'était qu'on avait ouvert la boîte de Pandore.
ありがとうございます。
Ce que je retiens de tout ça, c'est l'obstination que cette petite famille a menée contre vents et marées pendant toutes ces années à refuser de souffrir en silence. Une petite histoire qui en raconte beaucoup d'autres semblables et que la société japonaise, dans son ensemble, n'a pas tellement envie d'entendre 9 ans après la catastrophe de Fukushima, avant même l'ouverture des Jeux Olympiques.
C'est une supercherie qu'il ne faut pas accepter. Comme si ces gens-là avaient disparu.
Épisode 15. Japon. 75 ans après Hiroshima et Nagasaki. Avec celles et ceux qui se battent encore contre le nucléaire.
Un beau jour d'hiver ensoleillé dans Tokyo. Et on est dans quel quartier ?
On est à Asakusa, un des quartiers les plus touristiques de Tokyo.
Et alors, mais là, par contre, on est dans un petit théâtre. Ça ressemble un peu à un café-théâtre ou un kafkons français. Ça s'appelle comment le ?
Le manzai.
Le manzai.
Et dans beaucoup de cas, le rakugo. Le rakugo qui consiste... C'est une forme d'humour à base de jeux de mots de haut vol parce que ça joue beaucoup sur les homonymes. Ce qui fait que même pour quelqu'un qui parle couramment japonais, si on n'a pas en tête toute l'étendue du vocabulaire, c'est pas toujours facile à comprendre.
On va aller voir ce spectacle. C'est parce que vous allez le comprendre, c'est ici que commence une interrogation sur ce qui se passe à Fukushima. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Une petite salle de théâtre, de déco des années 50 avec des sièges en moleskine. Et il y a une cinquantaine de personnes dans la salle. Et des personnes âgées surtout. Et là. Alors vous-même, vous avez peut-être entendu le couple Oshidori, Mako et Ken. Et alors Mako est là avec son accordéon. Et Ken a des lunettes de plongée. Ils s'en vont en se faisant applaudir par le public. On va aller les voir en coulisses. On va parler de Fukushima et de la centrale nucléaire. Je vous attrape là juste en sortant de scène. Parce que, en plus d'être des showmen et showwomen, vous êtes des journalistes indépendants, spécialisés sur la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Oui, alors effectivement, on est des comiques, mais depuis qu'il y a eu cet accident, on a travaillé là-dessus aussi. Et parmi tous les médias qui assistent aux conférences de presse de TEPCO, Tokyo Electric Power Company, c'est moi qui suis allé au plus grand nombre de conférences de presse. Ce qui se passe, c'est que je pose des questions tellement dures qu'il y a des gens qui se demandent est-ce que je suis vraiment une comédienne et ils finissent par venir voir mes spectacles pour s'en assurer.
Vous gênez, vous êtes dérangeante avec votre double casquette et surtout d'aller gratter là où on ne veut pas gratter.
C'est une des choses qui m'a poussé à commencer mon travail de journaliste. C'est le fait qu'à l'époque, à la télévision, on nous répétait en boucle qu'il n'y aurait pas de conséquences pour la santé. C'est un moment qui va rester dans l'histoire du journalisme japonais.
15h36, heure de Tokyo. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima.
Tenue anti-contamination, zone de sécurité, pastilles d'iode, césium, radiation, le vocabulaire d'une crise nucléaire.
L'accident a été classé au niveau 7, le plus haut sur l'échelle internationale des événements nucléaires, comme celui de Tchernobyl.
Tokyo Olympique. En 2013, quand Tokyo a remporté l'attribution des Jeux Olympiques, le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré à l'époque que la situation à Fukushima était under control, sous contrôle. 2013, c'est l'année où on est devenu conscient des problèmes liés à l'eau contaminée. Il y a eu beaucoup de problèmes de fuite et il y a aussi la contamination de la nappe phréatique sous la centrale qui est très proche de l'océan. TEPCO avait les chiffres avant la réunion du CIO à Buenos Aires sur l'attribution des Jeux Olympiques. Et quand on pose la question à TEPCO, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu public ces données, la réponse était vraiment étonnante. Et ils le disent eux-mêmes. Les chiffres étaient tellement élevés qu'on a vérifié et revérifié avant de publier les données. Et je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, on aurait été mis au courant beaucoup plus rapidement. Et mes amis journalistes me disent tous que depuis l'attribution des Jeux Olympiques à Tokyo, c'est devenu plus difficile pour eux de parler de Fukushima.
Oui, ça a été aussi une éducation à la critique des médias et une éducation politique aussi sur l'information dans les sociétés démocratiques. C'est ce que raconte Noam Chomsky dans son livre « La fabrique du consentement
». Ouais, pendant ce temps-là, il y a Ken, votre époux, qui est en train de monter des photos de vous pendant la conférence de presse de TEPCO, où vous êtes dans une grande salle toute grise face à un monsieur tout gris et sa petite cravate derrière son micro. Et il y a une vingtaine de chaises et quatre journalistes, et vous êtes au premier rang en train de lever la main avec votre look, il faut le dire, un peu plus coloré que cet univers gris de cette société productrice d'énergie nucléaire qu'est TEPCO.
Une chose que j'ai comprise en travaillant sur le nucléaire en tant que journaliste, c'est que les mauvaises nouvelles, eh bien, on les cache. Et donc, tant que l'info n'a pas été sortie, la réalité n'existe pas. Depuis 2013 et l'attribution des Jeux Olympiques à Tokyo, que ce soit les travailleurs à la centrale ou les populations touchées par l'accident nucléaire, on leur a imposé une échéance, 2020, et que d'ici 2020, tout allait être revenu à la normale. Et donc, au lieu de regarder où on en est par rapport à la pollution, où est-ce qu'on en est par rapport au démantèlement, on a fixé l'objectif 2020 et tout le reste est censé suivre. On est loin d'avoir résolu la situation. Je continue à aller aux conférences de presse de TEPCO et il y a beaucoup de problèmes qui sont loin d'avoir été résolus.
Et résultat, maintenant, c'est parti, vous avez du boulot pour des années. Parce que les estimations qui sont faites par la société TEPCO, qui depuis a été nationalisée parce qu'elle ne pouvait pas faire face seule à l'ampleur de la tâche, c'est des estimations de plus de 40 ans de travaux. On n'est toujours pas arrivé à avoir accès au corium, c'est-à-dire l'ancien cœur en fusion de ce réacteur. Et vous risquez d'avoir du boulot pendant pas mal d'années encore, Mako Oshidori.
Une chose, c'est l'importance de l'information, l'importance des données. Que ce soit pour discuter de quelque chose, pour débattre de quelque chose, pour prendre des décisions. Sans ça, la société ne fonctionne pas. Et quand l'information n'existe pas, la démocratie n'est plus possible.
Moi, j'ai une question à vous poser, c'est comment vous trouvez la force de remonter sur scène pour raconter des blagues après ça?
C'est parce que je suis comédienne à la base que j'ai pu faire tout ce travail de journaliste qui est très sérieux. Je sais comment en rire pour ne pas en pleurer.
Lundi prochain, après votre sortie de scène, vous allez encore aller assister à une de ces conférences de presse de la société TEPCO sur l'après Fukushima. Mako et Ken Oshidori, arigato gozaimasu. Merci beaucoup et bravo. Ils sont installés, il y a un accordéon, ça on connaît, c'est un Excelsior bien patiné.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
La centrale de Fukushima reste toujours un énorme et angoissant chantier où près de 5000 personnes travaillent chaque jour.
Il faudra des mois aux courageux techniciens pour réparer les circuits de refroidissement. Le gouvernement japonais estime qu'il faudra entre 30 et 40 ans pour assainir les 600 km² contaminés par la catastrophe.
Épisode 15. Tokyo dans les marges. Des Japonais contre le nucléaire.
Mercredi 7 février, devant le tribunal de Tokyo, une trentaine de militants sont là, d'un côté et de l'autre du trottoir, attractés pendant que des prises de parole se succèdent pour prendre la défense et soutenir M. Arakawa, un ouvrier travailleur de la centrale de Fukushima qui a contracté une leucémie et qui tente de faire valoir ses droits auprès de TEPCO, la compagnie en charge des réacteurs qui ont explosé, voilà maintenant 9 ans. 9 ans après, ceux qui ont risqué leur vie pour contenir les radiations, ils sont en train d'essayer de se battre pour leurs droits, aujourd'hui encore.
Konnichiwa.
Je m'appelle Arakabu, j'ai travaillé à la centrale de Fukushima Daiichi et on m'a diagnostiqué une leucémie. Je suis ici pour demander des dommages à TEPCO, Tokyo Electric Power Company, qui était responsable de l'accident.
Vous faites partie de ceux qui ont été envoyés pour contenir les radiations alors que la centrale venait d'exploser.
Oui, tout à fait.
Comment vous êtes retrouvé là-bas ?
Tout a commencé avec le tremblement de terre et toutes ces victimes qu'il y a eu du tsunami. Moi, j'habite loin de cette région, à l'origine à Kyushu, donc de l'autre côté du Japon. Quand on a vu ça avec des amis, il y avait un besoin de travailleurs à la centrale, c'est comme ça que j'y suis allé.
Et vous aviez conscience du risque que vous encouriez ? A priori, le premier réflexe, c'est de vouloir fuir une catastrophe radioactive. Et vous, vous avez traversé le Japon pour y aller ?
C'est pas que j'en étais pas conscient, c'est qu'au départ, on nous proposait de nous payer un salaire qui était standard, mais plus que tout, c'est en sachant à quel point les gens souffraient dans le Tohoku de la catastrophe que j'ai appelé une quinzaine d'amis et qu'on a décidé d'y aller. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, je dois dire que je ne connaissais pas grand-chose sur les radiations. Et TEPCO, qui nous employait, ne faisait pas particulièrement d'efforts pour nous instruire et nous rendre conscients du risque pour la santé.
En quoi consistait votre travail ?
Ça consistait à faire des travaux pour mettre en place une enceinte de protection autour du réacteur numéro 4 pour permettre l'extraction des piles de combustible. Pour travailler dans ces conditions-là, les travailleurs auraient dû recevoir une combinaison spéciale qui permet de stopper une partie des radiations. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de combinaisons pour tout le monde et donc plusieurs personnes, moi y compris, on a été envoyés sur place sans les combinaisons.
Vous avez une idée de la quantité de radiation que vous avez reçue ?
Sur un an et demi, j'ai été exposé à environ 19,7 millisieverts. Et on m'a donc reconnu ma leucémie comme étant un accident de travail.
Et là, ce que vous voulez, c'est une réparation depuis TEPCO qui prenne en charge vos soins. Là, il y a un des membres du comité de soutien qui vient nous expliquer que l'audience va bientôt commencer et qu'il ne faut pas traîner.
Je m'appelle Nasubi, je fais partie d'un groupe qui s'occupe de la défense des droits des travailleurs nucléaires.
Parce qu'officiellement, encore à ce jour, il n'y a zéro victime des radiations au Japon. Personne, c'est ce que TEPCO dit et c'est ce que les autorités disent, personne n'est mort à cause de l'accident nucléaire de Fukushima. C'est la version officielle du moins.
Oui, c'est ce qu'affirme le gouvernement.
J'ai l'impression parfois que vous autres, vous êtes parmi les derniers qui ne voulaient pas passer l'éponge, qui montraient que les conséquences sont encore là et qu'il faut y faire face.
On est très en colère parce que TEPCO ne s'occupe pas, ne pense pas ni aux travailleurs, ni aux victimes de l'accident nucléaire, ceux qui en ont souffert.
C'est qui les coupables pour vous ?
C'est le gouvernement et TEPCO.
Vous devez y aller au procès. Bonne chance, bon courage. Ça y est, les tracts ont été ramassés. Les distributeurs de petites affiches sont allés se mettre dans la queue à l'entrée du tribunal pour pouvoir assister à l'audience et soutenir Monsieur Arakabu. C'est très impressionnant de voir, il y avait cette micro-manifestation qui était là et elle a disparu et c'est comme si de rien n'était devant le tribunal de Tokyo.
Silence des plaignants, indignation de Greenpeace.
Accusés de négligence, ils encouraient 5 ans de prison ferme et avaient tous plaidé non coupables.
Le tribunal de Tokyo a jugé ces 3 anciens hauts responsables de TEPCO non coupables des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Selon les plaignants, ces ex-responsables disposaient d'informations pour anticiper les risques de ce tsunami géant et n'auraient pas agi en conséquence.
C'était qui ?
On sort et c'est la nuit. Il y a un monsieur qui est absolument tout seul avec sa petite guitare et avec son petit haut-parleur et qui chante tout seul dans ce quartier désert, si ce n'est que quelques fonctionnaires qui sont là et quelques policiers. Je vois les quarts de l'équivalent CRS japonais. Et ce monsieur est là tout seul en train de chanter pour dire son opposition au Premier ministre Abe. C'est une spéciale dédicace pour les Français. Alors vous nous sortez votre petite carte. Acteur et activiste Takashi Mugita. C'était ça. Et on vous voit poser devant ce monument qui est célèbre dans tout le Japon parce que c'est l'ancien dôme qui est un des seuls bâtiments qui reste aujourd'hui du Hiroshima d'avant la bombe atomique.
Et ma mère était victime du bombardement atomique de Hiroshima.
Votre mère est une hibakusha, comme on dit.
Ma mère m'a parlé des dégâts de la bombe. Ma mère a maintenant 85 ans et elle a encore les traces dans le cou, sur le dos, de la bombe atomique.
Mais alors pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui tout seul, de nuit, et comme ça, devant le Parlement, en train de haranguer et de prendre à partie le Premier ministre Abe ?
Peu importe que je sois seul, la question c'est de s'exprimer. J'ai promis ça à ma mère. Même tout seul, je viendrai ici pour exprimer mon opposition à la guerre et exiger la paix.
De quel risque de guerre vous parlez ? Contre qui ?
Le Premier ministre, il veut détruire la Constitution. Il a décidé d'envoyer au Moyen-Orient les forces d'autodéfense. Et ça, eh bien, ça pose un risque de guerre pour le Japon.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, traumatisé, adoptait une constitution pacifiste.
L'article le plus symbolique, le numéro 9, voit le Japon renoncer à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Lui interdit de posséder une armée de nature offensive.
Et aujourd'hui, 7 décennies plus tard, le gouvernement japonais est sur le point d'obtenir une réforme de la Constitution.
Si nous sommes prêts à faire face à tout type de situation, cela renforcera notre capacité à décourager quiconque voudrait déclarer la guerre au Japon.
Mais cette initiative fait grincer bien des dents au Japon.
Ça, ça passe pas pour vous, à cause de la promesse que vous avez faite de votre mère rescapée du bombardement de Hiroshima.
Absolument.
Et si je vous parle d'une autre catastrophe nucléaire japonaise, pas Hiroshima, mais si je vous dis Fukushima.
Faire de l'électricité avec une centrale nucléaire, ça revient à essayer de faire bouillir de l'eau avec des armes nucléaires. Ça revient au même. Et il y a tellement d'autres façons de faire ça au Japon. On a les onsen, les bains thermaux. Il y a tellement d'autres manières de faire bouillir de l'eau. Je pense qu'il faut que le Japon signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Il faut que le Japon arrête d'utiliser des centrales nucléaires. Le nucléaire, l'humanité, ça ne peut pas coexister.
Et vous avez une chanson avec la guitare aussi ?
Je viens de commencer à apprendre la guitare, ça fait juste 2 mois que j'ai commencé à prendre des cours. En revanche, ce que je peux vous jouer avec juste une corde de la guitare, c'est une chanson contre la guerre.
Une chanson avec une corde de guitare. Dans la rue, face au Parlement japonais, par un militant tout seul qui est là pour protester contre le nucléaire.
Ah,
짠 가자 가자 자 짠 가자 가자 자 자 가자 자 가자 자 가자 자 가자 자 가자 자 가자 자 센소와 오코스모노다요 오키르모노데와나인다네 에라이야츠가우소をついて悪いやつが儲かって弱い僕らが死んでいく 戦争は止めなきゃダメよ汗かきべそかき歩こうよ 自民党が歩いてその後にゃペンペン草も生えません。はい、安倍はやめろ、安倍はやめろ、麻生もやめろ、嘘つきはやめろ。はい、安倍はやめろ、安倍はやめろ、麻生もやめろ、嘘つきはやめろ。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。On le laisse et il reprend son discours et Migita, le militant chanteur anti-nucléaire, qui parle en anglais, qui dit « on attend le Premier ministre » et qui est entouré maintenant de quatre policiers avec leurs gros bâtons. Il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond dans toutes les sociétés, y compris dans la société japonaise qui est toujours présentée à tort comme une société docile, avec plein de clichés occidentaux. Ici, non, il y a ceux qui refusent que les choses se passent comme ça. Refuser le nucléaire, refuser que le Japon se remilitarise. Ceux qui sentent bien que la société japonaise est en train de changer 75 ans après la guerre, après les bombardements, et 9 ans après Fukushima. Et on se dépêche parce que le métro arrive.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
Alors j'ai réussi à attraper mon métro à temps, tant mieux puisqu'on pourra continuer le reportage la semaine prochaine. Un grand merci à tous nos donquichotesques amis japonais qui refusent de baisser les bras. Merci aussi à Miguel Quintana pour la traduction, ainsi que Cécile Asanuma-Brice du CNRS Tokyo, Colin Kobayashi à Paris et Nanako Inaba pour leurs précieux conseils. Retrouvez toutes les infos, les photos et les liens sur franceinter.fr où vous pourrez aussi retrouver les podcasts en version longue de toute la série du Brésil au Groenland en passant par l'Australie. C'était Je reviens du monde d'avant, bien content d'être de retour au présent. Un grand merci à Clément Baudet qui a réalisé cette émission et Juliette Delperroux qui l'a mixée. Et on vous donne rendez-vous demain dimanche à 17h pour la dernière étape de notre voyage au Japon, à la rencontre de femmes et de mères qui, elles aussi, refusent de se laisser faire.